RFI. Grand reportage.
Plus de 3 ans se sont écoulés depuis la mort d'Islam Karimov, l'homme qui a dirigé l'Ouzbékistan d'une main de fer durant un quart de siècle. Depuis sa disparition, les nouvelles autorités du pays d'Asie centrale affichent une volonté de réforme et d'ouverture politique. Mais 3 ans plus tard, ces réformes ont un goût d'inachevé pour l'opposition qui reste muselée et qui dénonce une ouverture factice. Ouzbékistan, la liberté sous condition, un grand reportage de Daniel Valo.
Je m'appelle Axam Turgunov. En 2008, j'ai été condamné à 10 ans de prison. À l'époque, les autorités voulaient se débarrasser de moi parce que je dénonçais les atteintes aux droits de l'homme. Quand ils m'ont arrêté, les policiers m'ont dit « Aucune organisation internationale, ni vos défenseurs, ni vos avocats ne pourront vous aider. Vous ne sortirez pas vivant d'ici. »
Axam Turgunov est aujourd'hui âgé de 68 ans. Toute sa vie, il l'a consacré à la défense des droits de l'homme dans un pays qui les a très longtemps bafoués. Comme des dizaines d'autres opposants, il a été battu et torturé. Victime du système répressif mis en place par Islam Karimov, l'homme qui a dirigé l'Ouzbékistan jusqu'à sa mort en 2016.
Lors de mon interrogatoire, ils m'ont versé de l'eau bouillante sur le dos. Ils avaient des bouilloires de 3 litres. J'ai perdu connaissance et quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé en cellule avec le dos brûlé. C'était en plein été, il faisait très chaud, plus de 45 degrés. Dès que la lumière était éteinte, je sentais les mouches et les cafards qui se jetaient sur mes blessures. C'est la première fois que j'ai ressenti de la peur, que je me suis dit qu'ils allaient me tuer.
Axam a passé près de 10 ans dans l'enfer de Jaslik, la prison la plus redoutée d'Ouzbékistan. Aujourd'hui fermé, ce centre de détention a longtemps été le symbole de la répression exercée contre toute forme d'opposition sous l'autorité d'Islam Karimov. Des conditions de vie d'une très grande violence et des détenus politiques brutalisés, battus, humiliés.
Ils nous tabassaient du matin au soir. C'est les prisonniers de droit commun qui faisaient ça. Comme ça, quand quelqu'un mourait, l'administration pouvait dire que c'était une bagarre entre détenus. Les premiers jours, j'avais mal, mais après, je ne ressentais plus la douleur. C'était une blessure surtout morale. Je m'étais résigné et finalement, j'étais libéré. Je n'arrivais pas à croire que j'étais resté vivant.
Libéré en 2017, un an avant la fin de sa peine, Axam est l'un des 30 prisonniers politiques relâchés sur décision de Shavkat Mirziyoyev, le successeur d'Islam Karimov. Cette amnistie de plusieurs dizaines de détenus est l'une des mesures phares de la politique d'ouverture prônée par le nouveau président ouzbek. Âgé de 62 ans, Shavkat Mirziyoyev était pourtant l'un des piliers du régime précédent. Premier ministre d'Islam Karimov, au moment de son décès, il surprend tous les observateurs dès les premiers mois de son mandat en lançant son pays dans une série de réformes inédites. Le nouveau président ouvre les frontières, lutte contre la corruption et tente de réformer une économie embourbée dans la bureaucratie.
Oui. C'est super. En fait, c'est une maison privée. Moi, j'ai laissé le plafond ouzbek parce que je trouve que c'est très cool. Juste, j'ai coloré en gris parce que gris, c'est mon couleur, c'est l'identité de ma marque.
Bonjour, je m'appelle Elnora Rizaeva et je crée les vêtements sous le nom de Elari en Ouzbékistan.
C'est le propriétaire. Il vient toujours, il m'aide avec tout.
En fait, je veux faire un mix entre galerie d'art et entre le showroom. Et ici, cet espace, ça va être l'espace privé pour la haute couture. J'attends à peu près 15 machines à coudre, les dernières, les meilleures, pour faire les vêtements haut de gamme.
Longs cheveux bruns et sourire éclatant, Enora a fait une partie de ses études en France. En 2017, elle décide de revenir dans son pays, séduite, comme d'autres jeunes de sa génération, par le discours d'ouverture tenu par le nouveau pouvoir.
J'ai des tissus modernes. Par exemple, ceux-là, j'ai un stock italien en Ouzbékistan. Et aussi, j'ai des tissus ouzbeks, c'est ma société préférée. Ils font du coton, des popelines et tout ça, avec des bons imprimés.
Voilà. Vous pensez que l'économie est plus ouverte qu'auparavant ?
Je pense que oui, parce que je vois qu'il y en a beaucoup de sociétés qui font de l'export et ils peuvent aussi importer des matériaux qu'on ne produit pas en Ouzbékistan. Moi, je suis arrivée, je travaille, je vois plus d'opportunités, de possibilités, je cherche et je trouve. C'est plus ouvert, c'est plus facile à travailler. Les pays, ils développent, ils se développent et notre pays, il se développe très très vite.
L'ouverture économique de l'Ouzbékistan, c'est la grande affaire du nouveau président. À son arrivée au pouvoir, fin 2016, Shavkat Mirziyoyev hérite d'une économie affaiblie et entravée par des années d'autarcie et d'immobilisme.
Tout le monde comprenait que nous avions de très gros problèmes économiques.
Yuli Yusupov, directeur du Centre Ouzbek pour le développement économique.
Notre premier président avait créé un système assez étonnant, une économie fermée, où tout était contrôlé par les fonctionnaires. Et bien sûr, avec une corruption phénoménale. Les conséquences pour l'économie du pays ont été désastreuses, avec un niveau d'investissement très bas, le plus bas de tous les pays d'ex-URSS.
Parmi les premières mesures instaurées par le nouveau président, il y a la fin du contrôle d'échange. Les entreprises sont autorisées à échanger des soums, la monnaie locale, contre des dollars ou des euros. Une mesure qui a frappé les esprits et qui a entraîné la disparition d'un marché noir florissant et de la corruption qui allait avec. Venu faire ses courses hebdomadaires au bazar de la vieille ville de Tachkent, cet habitant de la capitale ouzbek y voit le principal acquis de cette nouvelle ère.
Maintenant, on peut aller à la banque et acheter des dollars. Avant, ça n'existait pas. Pour moi, c'est vraiment une chose positive. À part ça, concrètement, rien n'a encore changé. Mais je pense que ça va aller de mieux en mieux. Si la situation du pays s'améliore, alors notre vie, elle va aussi s'améliorer.
À l'approche du bazar de Chorsou, le plus vaste de Tachkent, il faut se frayer un chemin entre les cages à poules, les étals d'épices multicolores et les vendeurs de sandales et de t-shirts importés de Chine. Dostom, âgé de 20 ans, nous propose des feuilles de thé vendues dans un sac en plastique bleu. Lui aussi salue les réformes engagées par le nouveau président, même s'il se dit incapable d'en citer une seule. Il a, dit-il, une confiance aveugle dans le nouveau pouvoir.
Tout va très bien. Le nouveau président fait beaucoup de choses pour nous. Il y a de plus en plus de touristes et c'est très bon pour les affaires. Et puis le président a dit qu'en 2020, tout irait beaucoup mieux. Je ne sais pas vraiment ce qui va changer, mais il a dit que ce serait une très bonne année. C'est ce qu'il a dit.
En réalité, la vie quotidienne des Ouzbeks n'a guère changé depuis le début des réformes. Les coupures d'électricité et de gaz se sont multipliées. Certains prix de base ont même augmenté. Et la frénésie immobilière qui s'est emparée de la capitale a provoqué des évictions parfois douloureuses et brutales dans certains quartiers. 3 ans après le début des réformes, les résultats tardent à se faire sentir. Pour l'économiste Yuli Yusupov, le nouveau pouvoir n'est pas allé assez vite ni assez loin dans les réformes.
D'abord, il aurait fallu une véritable réforme de l'administration, car l'État et le gouvernement continuent de fonctionner comme à l'époque soviétique. Il est encore trop tôt pour parler d'échecs, mais il est clair que les réformes ont ralenti, qu'une inertie s'est installée. Bien sûr, certaines personnes ne veulent pas la fin d'un système qui leur assurait des revenus substantiels. Ces gens-là s'efforcent de bloquer les réformes en influençant, par différents moyens, les décisions du président.
Les réformes économiques n'ont peut-être pas apporté les résultats escomptés, mais s'il est un secteur où la politique d'ouverture a porté ses fruits, c'est celui du tourisme. Les ressortissants d'une cinquantaine de pays peuvent désormais se rendre sans visa en Ouzbékistan et découvrir les joyaux du pays, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, la ville de Samarcande. De Tachkent, il faut moins de 3 heures de train pour atteindre cette ville fabuleuse fondée au XIVe siècle. Une étape mythique sur la route de la soie, avec ses mausolées, ses mosquées et ses coupoles bleu turquoise qui scintillent dans le ciel.
Je m'appelle Sanjar Mamatkulov, je suis guide francophone en Ouzbékistan. Depuis 15 ans, je suis guide. Nous sommes sur la place de Registan. Reg, en tadjik, en persan, ça veut dire le sable. Istan, ça veut dire la place de sable. La place de Registan, considérée comme le cœur de Samarcande, c'est le monument le plus beau de l'Ouzbékistan.
J'ai l'impression que les minarets sont un petit peu penchés. C'est une impression ou
Non. Le minaret qui se trouve à droite, il penche un petit peu. Et vous savez comment j'appelle ce minaret ? Je le prends pour le minaret ouzbek. Si vous allez chez les ouzbeks, ils ont la main sur le cœur, ils baissent un peu la tête. Et ce minaret aussi accueille les gens qui viennent sur la place de Registan comme un ouzbek.
Avec ses villes mythiques et ses monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Ouzbékistan peut aussi compter sur son sens de l'hospitalité pour séduire les touristes. Depuis la fin de l'ère Karimov, le secteur a pris son envol. Le nombre de visiteurs a plus que doublé en 3 ans.
Pour développer le tourisme, il y a des pays comme les Émirats, par exemple, à Dubaï. Ils construisent. Il y a des gens qui y vont pour voir leur curiosité. Mais les gens qui viennent chez nous, ils trouvent une fortune qui est encore plus riche que celle de Dubaï. Par exemple, si j'ai beaucoup d'argent, à côté de Samarcande, je peux construire New York City ou bien Dubaï. Mais à Dubaï ou bien à New York, on ne peut pas construire Samarcande, c'est difficile. Parce que c'est l'histoire. Ça, c'est notre richesse, c'est vraiment notre richesse.
Retour à Tashkent, la capitale, pour une visite guidée du centre de presse flambant neuf qui a servi aux élections législatives du 22 décembre dernier. Les premières organisées en Ouzbékistan depuis la mort d'Islam Karimov. Visiblement ravi de montrer les lieux à des journalistes étrangers, le responsable du centre fait preuve d'un enthousiasme parfois désarmant, révélateur de la chape de plomb qui a longtemps pesé sur le pays.
Là, nous avons les postes de travail pour les journalistes et les blogueurs. Ils peuvent écrire, travailler, et le jour de l'élection, ils auront du Wi-Fi gratuit et rapide. Les appels à l'étranger seront gratuits également. Il y aura même du café et de quoi manger. Tout sera gratuit. Le format des débats est sans précédent. Les candidats ont le droit de parler de tous les sujets. S'ils veulent critiquer ou dire qu'il y a des problèmes, ils peuvent le faire. Certains débats sont en direct et ceux qui ne le sont pas ne sont pas coupés. Il n'y a pas de montage. Parce que vous savez, c'est le président qui nous l'a dit. Le pays est ouvert.
Après cette visite guidée, nous rencontrons Sodik Safoyev, ancien ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui vice-président du Sénat. Ce diplomate accompli est un fervent partisan de la politique de réforme conduite par le nouveau président.
Nous avons tous réalisé dans le pays qu'il fallait nous transformer si on voulait pouvoir s'intégrer au monde actuel. Personnellement, je pense que les pays qui stagnent avec de la corruption, avec des gouvernements qui ne rendent compte de rien à personne, ces pays sont vulnérables, ils sont faibles. Et on a vu ce qui s'était passé dans de nombreux pays d'Afrique du Nord ou d'ex-URSS, avec ce que certains ont appelé les révolutions de couleur. Ces révolutions, ce n'était rien d'autre que l'échec d'États qui n'ont pas été capables d'évoluer.
Convaincu de la nécessité des réformes, le nouveau pouvoir affirme également avoir accepté l'idée d'une véritable compétition politique. En témoignent ces élections législatives censées démontrer que la page de la dictature est bel et bien tournée.
Ces élections montrent le nouveau visage de l'Ouzbékistan. Elles sont totalement différentes des précédentes. Personne, bien sûr, ne peut garantir une démocratie à 100%, mais l'Ouzbékistan montre qu'il va dans cette direction. Il ne s'agit pas d'une parodie de scrutin. Les gens vont avoir le choix entre de vrais candidats et entre les 5 partis qui existent actuellement.
Une véritable compétition libre et transparente. À Tashkent, le discours des autorités ne convainc pas tout le monde. Au cours de notre reportage, nous rencontrons un juriste qui refuse de s'exprimer au micro, mais qui nous raconte ses tentatives infructueuses pour devenir candidat. Il fallait, nous dit-il, être sélectionné par l'un des 5 partis autorisés, des partis tous alignés sur la ligne du président. Des élections loin d'être démocratiques, c'est aussi ce que pense ce jeune ouzbek qui a d'ailleurs décidé de ne pas aller voter.
I represent this part of Je fais partie de ces gens au sein de ma génération qui ne leur font aucune confiance. Nous savons que tous ces candidats sont corrompus et qu'ils ne sont pas indépendants. Ils ont été choisis par les dirigeants, par le parti au pouvoir. Alors, à quoi bon participer à cette mascarade ?
Dans son petit salon où la lumière commence à faiblir, nous retrouvons Aksam Tourgounov. L'ancien détenu politique se montre lui aussi plutôt sceptique lorsqu'on l'interroge sur la sincérité des nouvelles autorités. Sa libération n'a été selon lui qu'un geste de façade cachant une réalité bien moins reluisante pour le pays.
C'est toujours une dictature, même si elle a changé de forme. Karimov et Mirziyoyev sont comme des forgerons qui tapent à coups de marteau sur une enclume. L'un tapait d'un côté, l'autre a simplement retourné l'enclume et il continue de taper. Tout le monde dit que notre liberté est le signe d'un changement. Moi, je réponds qu'il y a toujours des détenus politiques. Si les réformes avaient été réelles, eux aussi auraient été libérés.
Dans un rapport sévère pour le pays rendu au printemps 2018, l'ONG Human Rights Watch affirmait qu'il restait encore de nombreux prisonniers politiques en Ouzbékistan. L'ONG dénonçait également la survivance de pratiques répressives, mauvais traitements, tortures, harcèlement des opposants. Aksam en est le témoin direct, car même libéré, il reste l'objet d'une surveillance policière permanente.
La police surveille mon domicile. Je peux voir leur voiture devant l'entrée de mon immeuble. Ils ne me touchent pas, mais ils me menacent. Ils me disent « Vous êtes un vieil homme, un retraité. Une voiture pourrait très bien vous renverser. » Ou bien ils me harcèlent au téléphone. Ils ont ouvert plusieurs enquêtes contre mes enfants qui n'avaient rien fait. On nous fait subir des chantages, des provocations. On est obligé de se défendre et ça, ça laisse des traces.
L'Ouzbékistan a beau avoir tourné la page des années Karimov, le pays reste encore marqué par la crainte des autorités. Durant notre reportage, plusieurs interlocuteurs ont préféré se taire plutôt que de se mettre à dos le pouvoir en place. Une liberté de parole encore limitée, sous contrôle, mais une liberté de parole qui progresse malgré tout. C'est du moins la conviction d'Armad Ramanov, un chercheur indépendant qui observe avec beaucoup d'attention les changements au sein de la société ouzbek.
C'est ça qui a changé dans notre pays. C'est pas la politique, c'est pas la religion et tout ça, mais c'est parce que maintenant on exprime. C'est ça qui est important. La liberté d'expression, ça s'est libéré, vraiment. Pas ouvertement à la télé, parce que la télé, c'est toujours en quelque sorte contrôlé. Mais sur les réseaux sociaux, avant, on ne pouvait pas critiquer même le président. On avait peur. Avant, par exemple, si on était dans une dîner et si on commençait à critiquer le président, tout le monde gardait le silence et genre, c'était gênant, quoi. Et maintenant, il y a un débat.
On a quand même eu pas mal d'interlocuteurs qui n'ont pas souhaité nous parler à plusieurs reprises. On sent qu'il y a quand même toujours une contrainte et aussi un peu une crainte de se mettre dans l'embarras par rapport aux autorités.
Peut-être parce que vous êtes journaliste étrangère avec un micro, ça va laisser des traces et ça fait peur. Mais je pense qu'il faut un peu de temps, quoi, pour parler au micro librement. Je pense que les gens ils sont en train de comprendre qu'on peut exprimer.
Pour vous, c'est le début d'un processus ?
Maintenant, ça va être très difficile à revenir en arrière, parce que maintenant, les gens, ils ont pris goût à la liberté d'expression, à s'exprimer. Moi, je pense que ça va être très difficile de revenir en arrière maintenant.
Plus de 3 années se sont écoulées depuis la mort d'Islam Karimov, un homme qui aura laissé une empreinte durable sur son pays. En instillant la peur, la paranoïa, en favorisant la corruption de l'État et des élites. Depuis sa mort en septembre 2016, l'Ouzbékistan tente, avec difficulté, de tourner le dos à ce passé. Pour certains, ce vent de réforme n'est qu'illusion. D'autres continuent malgré tout d'y croire et de parier sur l'avenir de leur pays.
Ouzbékistan, la liberté sous condition, un grand reportage signé Daniel Vallot, réalisation Pierre Chaffanjon, à retrouver également sur RFI.fr. A bailar pega.